Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans la série que nous consacrons au rapport du Sénat, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Gérard Dériot, sénateur de l'Allier depuis 1998, conseiller général, adjoint au maire et président d'une communauté de communes, membre de la commission des affaires sociales du Sénat, pour évoquer un sujet très grave qui est devenu un objet de débat public pour la société française. Il s'agit du mal-être au travail que les drames humains survenus en 2009, notamment à France Télécom, ont placé au cœur de l'actualité. Monsieur le sénateur, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie.
Bonjour, madame.
Publié en juillet 2010 sous le titre « Le mal-être au travail, passer du diagnostic à l'action », votre rapport dresse un diagnostic préoccupant qui confirme que le mal-être au travail est un phénomène en progression. Votre rapport s'attache à montrer comment les mutations du monde du travail dans les entreprises et les administrations sont à l'origine de ce mal-être. Il évoque aussi les différentes actions engagées depuis 2 ans par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les employeurs pour tenter d'y remédier. Il comporte enfin les propositions et recommandations formulées par la mission pour prolonger ces efforts et leur donner une nouvelle impulsion. Je recommande particulièrement à nos éditeurs la lecture de cet excellent rapport qui est l'un des plus consultés, je crois, sur le site du Sénat, www.senat.fr. Monsieur le sénateur, avant d'aborder le thème de votre rapport, ce sujet grave, je tiens à préciser que vous avez été élu questeur du Sénat récemment, en décembre dernier, une fonction éminente dont nous vous félicitons, et je vous propose d'expliquer brièvement à nos auditeurs quel est le rôle de la questure du Sénat.
Eh bien, merci tout d'abord de vos félicitations, et je voudrais dire d'entrée que je suis très heureux d'être parmi vous, d'être ici à Canal Académie. Effectivement, mes collègues m'ont fait l'honneur de m'élire questeur du Sénat. Alors, le questeur, d'abord, il y en a 3. Au Sénat, il y a 3 questeurs, généralement 2 de la majorité, 1 de l'opposition. Et puis, les questeurs sont chargés, auprès du président du Sénat, de gérer l'ensemble de l'action administrative, financière, mais aussi la gestion du personnel du Sénat. C'est donc un travail permanent tout au long de l'année. Nous prenons les décisions qui nous semblent importantes pour cette gestion et le président du Sénat doit se référer aux décisions du questeur pour pouvoir effectivement engager les choses dans tel ou tel domaine. C'est donc une action importante, certes, passionnante, sûrement. Moi, j'en suis très heureux. C'est autre chose. On ne fait pas que de voter les lois.
Je vous remercie, monsieur le sénateur, pour ces précisions qui intéresseront nos auditeurs et qui leur permettront de mieux connaître le Sénat, ce qui est l'objet de cette série Rapport du Sénat. Si nous en venons donc au sujet d'aujourd'hui, le mal-être au travail, je voulais tout d'abord vous demander pourquoi la Commission des affaires sociales du Sénat, dont vous êtes membre et dont vous étiez vice-président jusqu'au mois de décembre, s'est-elle saisie de cette question à l'automne 2009 et a créé cette mission d'information?
Eh bien, nous étions depuis quelque temps devant des informations récurrentes qui venaient d'ici ou là, de France Télécom, de Renault, mais d'autres entreprises, où on annonçait qu'il y avait des employés qui se suicidaient sur leur lieu de travail. Alors, tout cela était forcément très inquiétant. Que se passait-il? Et c'est ce que nous voulions savoir, parce que dans une entreprise type France Télécom, il ne faut pas non plus mettre sans arrêt l'accent sur France Télécom. Sans doute, c'est celle qui a été le plus médiatisée. Mais malheureusement, ça s'est passé dans beaucoup d'endroits. Et en fait, que se passait-il? Qu'arrivait-il finalement? C'est ce que notre mission d'information a voulu savoir en faisant et en organisant un certain nombre d'auditions, de visites. Nous avons fait 36 auditions ou tables rondes, 2 déplacements sur le terrain, en particulier au technocentre de Renault à Guyancourt et dans un centre d'appel de France Télécom. C'est à partir de cela que nous avons pu nous faire une opinion, en tirer des conclusions, faire un état des lieux d'abord et essayer de faire des préconisations. C'était véritablement le but de cette mission.
Qui avez-vous auditionné? Donc 36 auditions, c'est très important. Et elles sont contenues d'ailleurs dans le tome 2 de ce rapport et elles sont vraiment très intéressantes. Je crois aussi que vous avez ouvert un blog que l'on trouve également sur le site du Sénat. et vous avez eu sans doute donc des contributions d'internautes sur ce sujet-là. Quel a été le champ de votre étude ? Est-ce que vous vous êtes attaché principalement aux grandes entreprises, mais aussi au-delà, à la fonction publique ?
Alors notre domaine d'investigation a été véritablement dans tous les domaines, effectivement, que ce soit dans les entreprises privées, grandes ou petites, que dans les entreprises publiques et chez des commerçants, chez des artisans, chez des agriculteurs. Nous avons essayé de balayer la totalité des lieux où les gens travaillent. D'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte aussi très vite que malheureusement, ce phénomène se produisait partout, que ce soit dans des grandes entreprises. Certes, c'est celle qui était le plus médiatisée, mais il y en avait également dans de toutes petites entreprises où il y en avait effectivement chez des gens qui travaillent seuls, des professions libérales, des agriculteurs qui se retrouvent seuls pour assumer une charge professionnelle et sociale finalement, parce que c'est quand même un problème social également et avant tout. Donc vraiment, ça a été dans tous les domaines que nous avons essayé d'investiguer.
Donc ce phénomène est général, concerne tous les secteurs d'activité. Vous nous dites donc que les salariés et les non-salariés sont concernés. Je me demandais si le secteur public était davantage touché. Je pense notamment aux grandes entreprises publiques, mais aussi peut-être aux enseignants, à la police, au pôle emploi, etc. Est-ce que les grandes entreprises sont plus touchées que les petites et moyennes entreprises et que les très petites entreprises ? Est-ce que les femmes sont plus exposées, les jeunes, les seniors ?
Alors, on trouve un peu tout, il faut bien le reconnaître. Mais d'une manière générale, il est vrai que nous retrouvons davantage de problèmes, de drames même, dans des entreprises importantes, parce que effectivement, la plupart du temps, l'employé, le directeur ou même le cadre se retrouve un peu seul face à une situation qui est le résultat de notre société, mais de notre société qui est aussi sous la pression de la mondialisation, où il faut absolument essayer d'augmenter les rapports financiers pour pouvoir continuer d'être compétitif. Et donc, bien sûr, la pression se reporte sur l'ensemble des employés, quel que soit leur grade. Mais c'est vrai que dans les grandes entreprises où on pourrait penser que l'environnement étant plus important, on pourrait éviter un peu mieux ce drame qui se déroule malheureusement régulièrement. Alors, ça n'est pas forcément le cas. C'est sans doute et surtout et avant tout parce qu'il y a eu de profondes mutations dans l'organisation des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. Privées parce que, comme je le disais à l'instant, la confrontation à la concurrence internationale entraîne des nécessités de pouvoir donner le meilleur de soi-même pour que l'entreprise ait le meilleur revenu possible. Mais c'est vrai aussi dans les entreprises publiques, parce que là aussi, on a fait des modifications qui étaient indispensables, c'est vrai, mais qui sans doute ont changé un peu la culture de l'entreprise et où des fois, eh bien, un certain nombre de personnes qui travaillaient dans ces entreprises n'ont pas forcément bien compris les transformations qu'on leur imposait, peut-être les changements de rythme justement par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Et tout cela rassemblé, eh bien, donne des résultats qui peuvent être graves si on n'y prend pas garde, si on n'allait pas voir exactement ce qui se passe, si on n'apportait pas quelques solutions, ou tout au moins quelques alertes. Donc, on voit bien que c'est vraiment partout que les choses peuvent se produire.
Oui, donc c'est un phénomène général. La France est-elle plus gravement touchée que d'autres pays ? Et est-ce que dans notre pays, finalement, la perception, la prise de conscience de ce phénomène n'a pas été plus tardive qu'ailleurs ?
Alors, le phénomène est le même partout. Vous voyez, on a, justement, nous l'avons vérifié au cours des auditions que nous avons faites, quand nous prenons les plateformes d'appel des grands opérateurs téléphoniques, bien sûr, nous, on voit France Télécom, mais quand on se renseigne, on sait que SFR a connu exactement les mêmes problèmes en Allemagne ou ailleurs. Donc en fait, c'est à peu près la même chose. Par contre, la prise de conscience, sans doute, et la prise de conscience qu'il y avait finalement un phénomène qui s'étendait, qui était en train de se répandre, a peut-être été prise un peu en retard par rapport aux autres pays. C'est sans doute la seule différence que l'on puisse trouver, mais l'importance de ce phénomène de mutation de société est vraie partout, dans tous les pays.
Je vous demanderai, au fond, qu'est-ce que ce mal-être au travail et pourquoi le travail qui devrait être source d'épanouissement, enfin qui pourrait l'être, source de lien social, pourquoi peut-il devenir une source de souffrance ?
Alors, le problème de l'organisation du travail aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, même si ça n'est pas tout, mais la mise en place des 35 heures a posé quand même une véritable question. Puisque pour arriver à continuer de fonctionner sans avoir des augmentations de coûts trop importantes, eh bien évidemment, tous les temps qui étaient des temps de relaxation, si je puis dire, ou tout au moins de convivialité qui pouvaient se prendre au cours d'une journée.
Pause.
Entre les pauses, voilà, la machine à café, tout bêtement. Tous ces moments un peu privilégiés de discussion avec des collègues ont été supprimés dans une journée de travail pour arriver à faire tenir dans le même temps, c'est-à-dire 35 heures, de faire correspondre exactement la même productivité, quel que soit le lieu où on se retrouve. Et donc, en supprimant l'ensemble de ces temps de pause, de ces temps de reconstruction, de discussion, de relaxation, tout cela petit à petit s'est accumulé et a donné en fait le sentiment, certainement dans beaucoup de cas, aux personnes, le sentiment qu'elle n'était là que pour travailler et qu'il fallait davantage encore de productivité. C'est un peu le taylorisme des services qui s'est développé et à partir de là, avec ses conséquences qu'on a pu connaître dans le taylorisme industriel et que l'on retrouve justement dans le taylorisme des services. C'est sans doute une des conséquences immédiates justement de la mise en place des 35 heures. Mais c'est aussi, je pense, d'une manière générale, la difficulté de la société, les mutations de la société, où les personnes ont tendance à non pas communiquer forcément avec leurs collègues, avec leurs confrères, où ils pourraient retrouver justement une explication à leur travail, une remotivation. Les gens ont tendance à s'isoler un peu et étant la plupart du temps avec le problème de l'obligation de résultat, ils ont le sentiment que s'ils n'arrivent pas à ce qu'on leur demande, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur, si je puis dire. Et ils n'osent pas demander, ils n'osent pas se renseigner pour voir si ce n'est pas normal simplement. Et petit à petit s'enferment dans une situation qui, à un moment donné pour elles, eh bien, devient une impasse et ils en arrivent des fois donc à l'acte fatal. Ça, c'est vraiment effectivement l'évolution de la société qui entraîne tout cela.
Effectivement, l'évolution de la société française que décrit le médiateur de la République dans son dernier rapport met le doigt, met l'accent aussi sur ce type de phénomène. Mais dans le monde du travail, il y a toute une série de facteurs, vous en avez évoqué plusieurs, vous nous avez dit l'impact des 35 heures. Votre rapport met l'accent donc, sur les mutations du monde du travail en termes d'organisation et de méthodes managériales. Il est vrai que beaucoup de méthodes anglo-saxonnes à l'origine ont été sans doute plaquées un peu vite dans nos entreprises.
Tout à fait. C'est un deuxième grand sujet qui ressort justement de l'étude et de l'information, de la mission d'information que nous avons menée, c'est que les méthodes managériales ont évolué dans un sens qui ne semble pas tout à fait respectueuse de la nature humaine. Et avec, j'allais dire, comme souvent d'ailleurs, un niveau de manager intermédiaire, disons, qui ont eux aussi la pression pour avoir des résultats, et qui font passer cette pression au niveau de leurs subalternes, et qui, pour lesquels, souvent, ils n'ont pas non plus la capacité de bien comprendre réellement ce qu'on leur demande. On leur met la pression, on demande davantage de résultats, et le management tel qu'il est préparé, pratiqué dans ces entreprises dans ces dernières années, n'était certainement pas du tout à la hauteur de ce qu'il était nécessaire de faire. Et puis, par ailleurs, il y avait du coup un éloignement aussi des personnes, j'allais dire quasiment au bas de l'échelle, peut-être dans une entreprise, par rapport à leur manager principal, sans intermédiaire. Donc en fait, les demandes, les exigences n'étaient pas expliquées totalement, mal comprises, et là créaient davantage de problèmes. D'ailleurs, dans les grandes entreprises type Renault, ils l'ont bien compris, ils ont commencé de recréer justement des managers intermédiaires pour réexpliquer tout cela. Car souvent aussi, les gens ne comprennent pas finalement le travail qu'on va leur demander. Et quand vous ne comprenez pas ce que l'on vous demande, ou tout au moins quel est le but réel de ce travail, bien évidemment, petit à petit, vous commencez à vous enfermer dans des réflexions qui ne vous aident pas à vous épanouir réellement pour le travail que l'on vous a commandé. Et c'est là où ces managers intermédiaires recréés doivent permettre justement de mieux expliquer, de mieux faire comprendre et de mieux remotiver les personnes qui se trouvent dans ces situations.
Oui, c'est bien le rôle des managers de donner du sens à l'action.
Bien sûr, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais malheureusement, on est allé trop loin, trop vite. Les managers sont restés très haut dans la hiérarchie. Il n'y a plus personne jusqu'à l'exécutif. Et à partir de là, ben évidemment, les gens n'ont pas compris et se trouvent complètement isolés. Donc c'est là où il faut recombler petit à petit en remettant des managers intermédiaires pour réexpliquer le travail, leur redonner la motivation réelle.
Y a-t-il eu d'autres facteurs, notamment dans le secteur public? Je pense par exemple à la révision générale, politique publique.
Bien sûr.
Et une perte de sens peut-être des valeurs du service public aussi.
Voilà. Alors là, il y a deux choses. C'est vrai pour le service public comme pour l'entreprise privée, la perte de sens du service public tel qu'il était compris jusqu'à il y a peu effectivement, a forcément quelque part troublé les personnes qui étaient habituées à travailler d'une certaine manière et à se préoccuper, certes, de la manière dont le public était servi. C'est vrai. Maintenant, d'un autre côté, le public lui-même ne demande peut-être pas non plus toujours à être servi comme il l'était il y a 20 ou 30 ans. On est dans un monde plus modernisé, on utilise tous les moyens modernes de communication qui manquent complètement d'humanité, il faut bien le reconnaître, c'est totalement impersonnel. Et finalement, les gens s'y habituent, s'y font, sauf certains, bien sûr, qui, eux encore, restent un peu au bord du chemin. Mais c'est vrai aussi pour des artisans, pour des commerçants, qui avaient toujours l'amour du travail bien fait, et aujourd'hui, ils se trouvent confrontés à la nécessité d'aller très vite, de faire une commande encore plus vite qu'avant et donc obligés de moins se soucier de la qualité parfaite de ce qu'ils appelaient l'amour du travail bien fait. Ça, ça disparaît. C'est également au préjudice à la satisfaction personnelle quand on réalise quelque chose. Donc ça montre bien que c'est aussi bien dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées.
Les suicides survenus donc dans certaines grandes entreprises auraient-ils pu être évités ? Pensez-vous qu'il y a eu un défaut de vigilance, de l'encadrement
Sûrement. À partir du moment où quelqu'un se suicide à côté de vous, il sait bien qu'il y a quelque chose, et bien que cette personne s'est isolée et qu'elle n'a pas trouvé à côté d'elle qui que ce soit auprès de laquelle elle pouvait se confier. Il ne faut pas négliger non plus. Chaque personne, forcément, même à l'intérieur de son milieu du travail, est forcément impacté parce qu'il vit chez soi, parce qu'il vit dans la journée complète entre le stress des transports, le problème de la garde des enfants, le problème des femmes qui font finalement une journée double. Tout cela s'accumule et donc il ne faut jamais le négliger. Il y a aussi cet impact-là. Mais il est vrai qu'on est dans une organisation du travail aujourd'hui où on demande la performance maximale tout le temps. Et je redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, certaines personnes n'ont pas pu suivre facilement cette évolution du travail et ont l'impression que si elles n'arrivent pas à ce qu'on lui demande, c'est qu'elles ne sont pas à la hauteur, c'est qu'elles sont bonnes à rien, donc elles ne vont pas aller se confier à quelqu'un qui est avec eux parce qu'elles vont dire « c'est un aveu de faiblesse et donc je suis condamné d'avance ». Alors que c'est l'inverse. Il faudrait justement que chacun puisse regarder son voisin, son collègue de travail, pour voir s'il ne change pas d'attitude, s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer, et pouvoir le signaler, et qu'après, cette personne puisse être prise en charge par la médecine du travail, qui est quand même la mieux placée pour pouvoir apporter des solutions.
Monsieur le sénateur, je vous propose de marquer une courte pause et de reprendre cette émission dans quelques instants.
Les sciences de l'univers sont sur Canal Académie. Françoise Combes vous emmène au cœur des exoplanètes. Le paléontologue Philippe Taquet vous initie à la chasse aux fossiles. Suivez Claude Lorius en expédition au pôle Sud. Quant à Yvan Lemao, il vous propose d'observer les manchots en terre Adélie. Des rencontres uniques avec les académiciens des sciences à télécharger sans plus tarder sur Canal Académie.
Madame, Monsieur, nous sommes aujourd'hui dans le studio de Canal Académie en compagnie de Monsieur le sénateur Gérard Dériot, auteur d'un excellent rapport sur le mal-être au travail, passé du diagnostic à l'action. Rapport qui comprend deux tomes, numéro 642, 2009-2010, que vous pouvez consulter sur le site du Sénat, www.sénat.fr. Monsieur le sénateur, vous nous avez expliqué l'ampleur du phénomène du mal-être au travail actuellement en France. Ce phénomène a été mis en lumière par les événements tragiques de l'année 2009. Vous nous avez expliqué un certain nombre de facteurs de ce mal-être. Votre rapport dresse aussi un bilan des nombreuses initiatives qui ont été prises depuis 2 ans pour tenter de remédier au mal-être au travail. Alors, quelles sont les actions qui vous paraissent les plus efficaces parmi celles qui ont été prises tant par l'État que par les partenaires sociaux et les entreprises ? Est-ce que vous pensez qu'elles s'attaquent à la racine du mal ? Est-ce qu'elles visent principalement à développer une politique de prévention ?
Bien, tout à la fois, parce que là encore, chacun a découvert un peu l'ampleur du phénomène et depuis 2 ans, il y a maintenant quand même des actions qui sont engagées. C'est d'ailleurs parce que le thème du mal-être au travail qui s'est imposé dans le débat public, donc de nombreuses initiatives ont été prises. D'abord, les partenaires sociaux ont conclu en juillet 2008 un accord sur le stress au travail, puis en mars 2010, un accord sur le harcèlement et la violence au travail. On n'a peut-être pas parlé justement des problèmes de violence, mais d'agressivité également. Quand vous avez des gens dans leur travail qui sont en contact avec le public, il faut voir comment certains de nos concitoyens se comportent face à un représentant d'administration, face à quelqu'un qui travaille dans un commerce. Donc cette violence est en permanence et celui qui la reçoit en pleine figure alors qu'il fait son travail correctement ne comprend pas. Donc tout cela, il faut absolument arriver à le prendre en compte dans les mesures. Donc les partenaires sociaux se sont mis d'accord justement pour essayer de reprendre tout cela et essayer d'apporter des solutions. Alors on peut dire aussi que le gouvernement a lancé en 2009 un plan d'urgence pour la prévention du stress au travail. Ça aussi, ça fait partie également des mesures. Et qui prévoyait notamment que les 1500 entreprises employant plus de 1000 salariés devaient ouvrir avant le 1er février 2010 des négociations sur ce thème. Parce que là aussi, il faut qu'à l'intérieur des entreprises, les gens parlent de ce problème. Et donc le deuxième plan santé au travail, qui couvre la période 2010-2014, fait de la prévention des risques psychosociaux un de ses axes majeurs. Alors, des entreprises publiques ou privées ont pris des initiatives. Ça a été le cas chez Peugeot PSA, Peugeot Citroën, chez Renault, sur le site du Technocentre, mais aussi France Télécom. C'est-à-dire en faisant travailler des cabinets spécialisés d'abord pour essayer de faire l'analyse exacte de la situation et voir quelles solutions on pouvait apporter dans l'organisation. Alors, sur le plan plus juridique, il y a eu aussi une nouvelle disposition dans le Code du travail, parce que ça, c'est quand même très important, justement, pour alerter tout le monde. C'est-à-dire que cette nouvelle disposition indique que l'organisation du travail et les méthodes de gestion mises en œuvre par l'employeur ne doivent pas mettre en danger la sécurité des travailleurs, porter une atteinte sérieuse à leur santé, ni compromettre leurs droits et leur dignité. Je crois que là, c'est une disposition qui couvre vraiment la totalité des situations dans lesquelles peuvent se retrouver bon nombre d'employés, et donc il est nécessaire de pouvoir faire attention à tout cela. Alors après, bien sûr, dans les mesures, c'est dans le domaine du management, mieux former les cadres à la gestion d'équipe. Alors manifestement, bon nombre d'entreprises ont commencé de le prendre en compte. Je le disais à l'instant, en recréant des managers intermédiaires pour recréer du lien entre les différents échelons d'entreprise, surtout quand on est dans une très grande entreprise. Donc tout cela, c'est finalement quelque part revenir aux fondamentaux du management en donnant toute leur place au comportement individuel. Et finalement, ça pourrait être une solution, qu'on a évoquée d'ailleurs dans le rapport, pourquoi pas donner une part de la rémunération variable des managers qui pourrait dépendre d'indicateurs sociaux en fonction de ce qui se passe dans leur propre service. Ça pourrait être justement l'incitation.
Oui.
Et puis, une attention toute particulière qui pourrait être portée aux TPE et aux PME pour lesquelles les partenaires sociaux pourraient élaborer des plans d'action clés en main. Parce que les partenaires sociaux, des fois on peut le dire, sont un peu agaçants, mais d'un autre côté sont nécessaires et indispensables. Et quand on est dans les très petites entreprises, bien évidemment, il n'y a pas de comité d'entreprise, il n'y a pas tout cela où on peut en discuter. Et puis, les acteurs de la prévention et des risques professionnels montrent bien qu'il est nécessaire de renforcer justement la médecine du travail et les CHSCT, c'est-à-dire les comités d'hygiène et de sécurité qui sont le lieu privilégié pour parler de tout ça. Mais là aussi, les CHSCT se retrouvent que dans les grandes entreprises publiques ou privées, mais pas dans les petites. Donc il faut faire très attention à tout cela et leur donner, à mon avis, un peu plus d'importance.
Pensez-vous que les actions que vous évoquez, toutes ces initiatives depuis 2008, ont déjà permis de faire changer l'état d'esprit des entreprises et des administrations, même si elles ne se sont pas encore généralisées?
Moi, je crois que oui. Rien que par le fait qu'on en ait beaucoup parlé, que les médias en aient beaucoup divulgué tout ce qui s'était passé, j'ai le sentiment que les chefs d'entreprise, d'une part, les partenaires sociaux, d'autre part, qui eux-mêmes avaient peut-être trop tendance dans ces dernières années à ne penser que la défense des rémunérations de chacun, reprennent à leur compte aussi maintenant dans les discussions le bien-être de leurs collègues dans leur lieu de travail. Je crois que petit à petit, les choses bougent parce que justement on en a parlé. Alors sûrement pas assez vite, sûrement pas autant qu'il le faudrait, mais malgré tout, l'amorce est prise et donc ça ne s'arrêtera pas, je pense pas.
La mission a formulé des propositions et des recommandations, je crois au nombre de 13, qui sont contenues dans votre rapport. Quelles sont pour vous les principales voies d'amélioration proposées ? Est-il facile de mettre en œuvre certaines réformes ? Sont-elles coûteuses ?
Alors évidemment, je pense en particulier dans les grandes entreprises, ce problème du management intermédiaire est indispensable. Alors forcément, il coûte dans la mesure où il faut rajouter des personnels pour s'occuper de tout cela. Mais d'un autre côté, ça fait partie peut-être, là encore, de cette meilleure rentabilité qu'on peut obtenir finalement, qui est nécessaire. Et si elle peut se faire, cette meilleure rentabilité, sans qu'il y ait les drames derrière, ça veut dire que des managers supplémentaires, des managers de proximité, ça ne coûte pas cher. C'est au contraire tout à fait nécessaire. Ça, je crois que c'est une des mesures la plus importante. Moi, je crois qu'il y a véritablement dans les écoles de management, il y a là aussi à sans doute faire bien comprendre qu'il y a le résultat, mais il y a aussi au milieu des hommes et des femmes dont il faut tenir compte et que là, il faut absolument inculquer une meilleure formation. Et puis, la prévention. La prévention est vraiment indispensable et ça, il faut absolument qu'elle soit développée. Et donc, la médecine du travail doit être réformée également pour être plus efficace. Là, on voit qu'il va y avoir d'ailleurs à travers une proposition de loi faite par Nicolas Habou au Sénat, d'ailleurs dont on va parler demain, il va y avoir justement une proposition d'évolution de la médecine du travail qui devrait être plus efficace. Et puis les comités d'hygiène et de sécurité à qui il faut donner davantage de pouvoir. Et peut-être justement en faisant élire directement chaque représentant pour qu'il se sente plus impliqué justement dans cette participation au fonctionnement des CHSCT. Et puis il est indispensable de se préoccuper de la détection et de l'accompagnement des salariés en souffrance. On en parlait à l'instant. Vous êtes dans un univers de travail avec des personnes autour de vous. Il faut absolument que les uns et les autres se regardent, se parlent, s'écoutent pour que s'il y a quelque chose qui se passe chez un collègue, eh bien l'autre puisse avertir, puisse alerter. Ça, je crois que c'est possible, ça ne coûte rien et ça peut être avec une très très grande réussite et une grande efficacité. Alors, il y a aussi une chose que l'on a préconisée et qui est nécessaire de faire, c'est de sensibiliser aussi les médecins de médecine de ville au problème de la maladie en entreprise. Donc il est nécessaire absolument de pouvoir donc les inciter à penser à cela en permanence. Donc ça, je crois que tout cela, je vous le dis, ça ne coûte rien, mais c'est indispensable. Et puis après, il y aura bien sûr la réparation de tout cela qui se posera. Est-ce par la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale ? Et pour les préjudices qui sont causés par le stress et la souffrance au travail. Ça, c'est dans un deuxième temps, quoi. Mais toutes ces préconisations ne coûtent pas forcément cher et peuvent être, à mon avis, très efficaces. Il y a un détail que j'ai oublié de dire, mais qui me paraît tout à fait correspondre à la société dans laquelle on est aujourd'hui. Vous savez que dans une même entreprise, dans le même bureau, les gens ne se voient plus, ne se parlent plus, ils s'envoient des mails. Et à partir de là, pas de contact. Et en fait, du moment que vous n'avez pas la personne en face de vous, ils peuvent se lancer des mots que l'on ne dirait pas si on était les yeux dans les yeux. Mais ils le font à travers les mails. Et là aussi, le stress, la crise à l'intérieur du lieu de travail s'envenime à cause de ça aussi. Et dans une entreprise comme Renault, d'ores et déjà, ils ont pris une mesure signifiant qu'un mail qui est envoyé le vendredi à partir de 16h doit avoir une réponse que le lundi à partir de 12h. Parce que sinon, avant, on exigeait que les gens répondent pendant leur week-end. Donc c'était une pression permanente. Et c'est tout bête, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette pratique des courriels, eh bien, les gens peuvent se dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, et mettant des fois aussi la pression sur certains de leurs collègues qui se disent « mais il faut absolument que j'ai répondu avant d'arriver le lendemain matin au travail ». Je vous laisse imaginer la nuit que la personne va passer.
Vous savez, j'ai moi-même été dans une entreprise du groupe France Télécom. Mmh. Parfois, nous avions 400 mails
c'est ça.
Auxquels il fallait répondre très vite.
Voilà.
Et il est vrai que les nouvelles technologies, si elles sont là pour connecter les personnes, mais au fond, parfois, elles les isolent aussi.
Bien sûr, mais bien sûr. Et les isole et aggrave encore un peu plus, justement, la situation de stress et de mal-être.
Revenons peut-être aux propositions et recommandations. Mmh. Vous mettez, et vous l'avez dit, beaucoup l'accent sur la formation des managers. Vous avez, dans vos auditions, rencontré, je crois, la directrice des études de l'ENA, peut-être aussi des dirigeants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce. Est-ce que vous avez senti qu'ils étaient prêts à introduire dans les enseignements actuels des modules spécifiques sur la santé au travail ?
Là, vraiment, je crois que oui. Alors, est-ce un effet d'instant parce qu'on les auditionnait et qu'on leur posait la question ? Mais je pense que c'est allé au-delà. C'est-à-dire qu'ils commencent les uns et les autres à prendre conscience que, sans doute, ils ont formé des esprits parfaitement bien actifs et réactifs, intelligent, tout ce que l'on veut, mais la gestion des personnels, ils l'avaient souvent oublié. Alors que ces personnes-là sont appelées, justement, quel que soit le lieu où ils vont exercer sont appelés à gérer des équipes. Et là, ils ont compris qu'il fallait absolument qu'ils leur apprennent le management de ces équipes. Parce que sur des ingénieurs, par exemple, c'est caractéristique. Des ingénieurs qui sont pour la plupart formés merveilleusement bien dans leur domaine technique, mais ils n'ont jamais, jamais, jamais eu jusqu'à présent une formation de management de personnes, et la plupart se retrouvent à la tête d'entreprises, et de grandes entreprises pour certains. Donc je crois que maintenant, et vous voyez par exemple chez Renault, on nous l'a montré, on nous l'a dit, maintenant on met toujours des ingénieurs bien sûr à la tête des choses, mais on leur adjoint un manager, en attendant d'avoir des gens qui seront formés spécialement pour ça.
Donc prise de conscience aussi au niveau des écoles,
ah
des
oui,
grandes
je
écoles.
Je crois que ça a été très net.
Qu'attendez-vous des suites de votre rapport à court et moyen terme ? C'est sans doute un peu tôt pour dresser un bilan de tout ça, mais bon, vous avez évoqué donc la réforme de la médecine du travail qui probablement est proche et prochaine. Est-ce que la commission des affaires sociales du Sénat continue à s'intéresser donc à toutes ces questions de la santé au travail ? Est-ce qu'il y aura un suivi de la mission sur les préconisations du rapport ?
Bien sûr, nous allons le faire. Et personnellement, bah évidemment, comme rapporteur, je m'y attacherai à suivre pour voir si les choses évoluent, s'il y a nécessité de relancer un certain nombre de choses. C'est aussi à cela que servent nos rapports, c'est-à-dire d'exister. Ils mettent l'accent à un instant T, mais il y a nécessité de les remettre à jour, c'est, je veux dire, régulièrement, puisque les choses évoluent. Mais c'est aussi, en fait, d'assurer quelque part un service après-vente, un service après-rapport, et voir où en sont les choses. Personnellement, j'essaierai de m'y intéresser très fortement.
Monsieur le sénateur, merci. En conclusion, j'aimerais vous demander, pensez-vous donc possible de concilier le bien-être et l'efficacité économique à l'heure où la concurrence internationale est très vive ?
Oui, moi je suis persuadé que les deux choses ne sont pas antinomiques. Sans doute, elles ont été un peu brutales au moment où la compétition a été la plus vive, la plus forte. Donc on a commencé par répondre d'abord à la production, à la vente, sans se préoccuper forcément des personnes qui étaient là. Aujourd'hui, les choses évoluent. Le progrès doit pouvoir nous aider très largement à être compétitifs d'une part, mais aussi à aider les personnes à pouvoir participer à ce progrès. Il ne faut pas que ce soit contre elles, bien au contraire. La prise de conscience, généralement, bien, se fait au moment où il y a des drames. Malheureusement, ils ont eu lieu. Mais l'homme est intelligent. Il trouve à ce moment-là les solutions les mieux adaptées. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne l'ait pas prévu avant. Mais aujourd'hui, je suis persuadé que les choses ne se passeraient plus comme ça.
Donc, nous allons remettre de l'humain dans le monde économique.
Tout à fait, tout à fait.
Merci, monsieur le sénateur. Cet entretien était très passionnant et je pense que nos auditeurs l'ont écouté avec plaisir. Je les invite donc à lire votre rapport sur le site du Sénat et sur le site de Canal Académie, puisque nous sommes en lien. Et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau sur notre antenne.
Merci, madame. Merci.
Au revoir, monsieur le sénateur.
Au revoir.